Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous les auditeurs. Ce soir, la grogne des enseignants et des parents. Appel à la grève jeudi prochain dans les écoles. Grève contre le protocole sanitaire. Cette colère, RTL est allée la recueillir sur le terrain. On va vous emmener par exemple à Marseille où la mairie prend les devants et va équiper les instituts de masques FFP2. On va vous emmener aussi à Bayonne où 528 élèves sont absents dans un même lycée. Au total, presque 50 000 élèves ont été testés positifs depuis la rentrée lundi. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans le journal de Marion Calais. C'est vous Marion Calais, bonsoir Marion.
C'est bien moi, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Emmerder les non-vaccinés, deux jours après, Emmanuel Macron assume sans pour autant utiliser le même mot.
Sachez qu'à 18h15, on donnera la parole dans RTL Soir aux immunodéprimés qui se sentent sacrifiés face à Omicron. Malades, transplantés, ils représentent jusqu'à 30% des personnes en réanimation. Une malade, un chef de service à l'hôpital, un président d'association seront avec nous.
Dans ce journal aussi, la mort du premier acteur noir américain récompensé par un Oscar, Sidney Poitier, est décédé à l'âge de 94 ans. Au Royaume-Uni, la libération sous contrôle judiciaire du footballeur Benjamin Mendy. Il sera jugé pour viol et agression sexuelle l'été prochain. Les courses dans le Quintet Plus à Deauville, il fallait jouer le 9, le 2, le 6, le 4 et le 8.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger. Est-ce que le Dakar doit s'arrêter? Peut-être, dit le gouvernement. Pas question, dit l'organisateur après l'explosion d'une voiture du rallye il y a 8 jours en Arabie Saoudite. À 18h30, les dessous de l'actu. Les dessous de Bordeaux-Marseille. 21 cas de Covid en 3 semaines chez les Girondins. Et pourtant, le match de foot se jouera bien ce soir. 18h40, on va refaire nos régions, 20 minutes positives près de chez vous, comme chaque vendredi. Au menu des robots toulousains qui cartonnent à Las Vegas, l'entrepôt XXL qui trouble la campagne ch'ti et puis un délice unique sucré dans une boulangerie normande. 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud et son équipe de journalistes étrangers. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir
le programme.
À tous. On viendra bien sûr sur la petite phrase politique de la semaine et si vous pouvez me permettre, ça a bien emmerdé les correspondants de la presse étrangère. Difficile à traduire tout ça. Et on se demande aussi si les Français disent plus de gros mots que les autres. Eh bien, c'est pas dit.
D'accord, très bien. Nous sommes très polis, nous les Français. Des points météo tout au long de l'émission avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir.
La tendance en un mot
Une tendance pourrie, si vous voulez un seul mot. On va trouver du soleil bien tout le week-end près de la Méditerranée. Pour les autres, franchement, on va tout avoir. De fortes pluies, de fortes rafales de vent, de la neige, même en pleine.
Bon,
tout y est.
On détaille ça dans quelques minutes.
Oui.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Allez, le week-end arrive, vous allez pouvoir souffler après ce qui a sans doute été pour de nombreux parents la semaine la plus longue.
Oui, au cours de laquelle il a parfois fallu gérer le boulot et les enfants entre absence de prof et tests à réaliser lors de la découverte d'un cas dans la classe, puis à J+2, puis à J+4. Un protocole aux allures de casse-tête pour cette mère de famille qui manifestait ce matin à Villepinte en Seine-Saint-Denis à l'appel de la FCPE.
On ne sait plus quand envoyer l'enfant à l'école, quand le garder, quand ne pas le garder, quand le tester, quand ne pas le tester, quand est-ce qu'il aura cours, quand est-ce qu'il n'aura pas cours. Ça devient l'école à la carte, à la commande. Quand ma fille elle m'a dit je suis cas contact, je lui ai dit attends, t'es pas vaccinée, il faut que je vois comment tu vas. Attends, je relis le protocole. Non, et c'est toujours les parents qui prennent.
Et il n'y a pas que les parents qui s'insurgent, les enseignants aussi haussent le ton. Une intersyndicale est en cours, mais déjà plusieurs organisations appellent à la grève jeudi prochain.
Et notamment le SNUIPPFSU, c'est le premier syndicat d'enseignants à l'école primaire. Guylaine David en est la porte-parole.
La situation est catastrophique dans les écoles. On gère tous les jours, voire par demi-journée, les cas de Covid des élèves, mais aussi chez les enseignants. Et tout ça, ça va engendrer des contaminations en plus. Donc nous, on demande très clairement au ministre de revenir à la situation antérieure, où on avait un protocole qui permettait de fermer la classe au premier cas de Covid. Il y a aussi un ras-le-bol et une colère des enseignants que le ministre n'entend pas, parce qu'il passe en force avec ces protocoles. Il n'écoute pas les personnels, il n'écoute pas le terrain et il n'a pas pris conscience de la réalité des difficultés que l'on a sur le terrain. On voit très bien que la situation ne va pas s'améliorer dans les jours à venir et qu'on aura des contaminations qui vont décupler dans les semaines à venir.
Guylaine David, porte-parole du SNUPPFSU, jointe pour RTL par Nathan Bocard.
Des enseignants que le maire de Marseille, lui, a choisi de rassurer. Le socialiste Benoît Payan a promis aujourd'hui d'équiper crèches et écoles en capteurs de CO2 et de fournir des masques FFP2 à leur personnel.
On a équipé 350 écoles aujourd'hui. On a commandé 350 nouveaux capteurs qui vont arriver bientôt. On va équiper les crèches et les écoles en capteur de CO2. Et donc ça va permettre justement d'être très attentif et de protéger les petits Marseillais. J'avais commandé dès le mois d'août, il a fallu beaucoup de temps parce qu'on est en rupture de stock de partout, il a fallu que j'aille sur les marchés internationaux pour en acheter. Dès le mois d'août, des capteurs de CO2, bien avant l'arrivée d'Omicron. Là, on se déploie sur tout le territoire marseillais.
Ça va être suffisant ?
Voilà, c'est jamais suffisant, mais il faut pousser, aller le plus loin possible. C'est pour ça aussi qu'on va distribuer des masques FFP2 dans toutes les écoles pour que les personnels de la ville de Marseille puissent avoir des masques FFP2.
C'est pas l'État de donner ces masques ?
Bien, puisque l'État ne le fait pas, je le fais moi.
Le maire de Marseille, Benoît Payan, au micro RTL d'Étienne Baudu. Et on rappelle les chiffres à l'issue de cette première semaine après les vacances. 9000 classes fermées au plus haut depuis le printemps dernier et presque 50 000 élèves testés positifs.
C'est sans conteste le mot de la semaine. Alors, il ne l'a pas répété aujourd'hui, mais Emmanuel Macron l'assume, oui. Il veut emmerder les non-vaccinés.
Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là.
J'assume totalement, dit donc Emmanuel Macron. Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
Ce qui est marquant quand même, c'est que le chef de l'État n'utilise plus tout à fait les mêmes mots.
Bah oui, c'est ça, ce fameux mot « emmerder », il ne l'a pas répété à la tribune. D'abord parce que ce n'est pas la même chose de le lire dans un journal et de laisser une archive sonore qui le poursuivra des années. Et puis aussi parce qu'il était en pleine conférence de presse à côté de la présidente de la Commission européenne. Ça aurait fait mauvais genre. Et puis, ça ne vous a pas échappé, on en a parlé sur RTL. Certains voisins européens se sont indignés de cette sortie présidentielle. Alors Emmanuel Macron a donc choisi de ne pas remettre une pièce dans la machine. D'autant qu'il a bien disséqué notre sondage BVA pour RTL. Sondage sans équivoque, les Français, qu'ils soient de droite, socialistes ou écologistes, approuvent majoritairement son message. Mais le ton et le vocabulaire employés sont jugés indignes d'un président de la République. Le chef de l'État a donc corrigé le tir aujourd'hui. Il assume le fond, mais plus la forme.
Le décryptage politique de Vincent de Rosier pour RTL, cette emmerdée qualifiée de cynique et ridicule par Éric Zemmour en déplacement. En Eure-et-Loire, Marine Le Pen, elle accuse Emmanuel Macron d'être un pyromane. C'est un effet confirmé du vaccin contre le Covid et une nouvelle étude américaine vient de le prouver. Oui, les injections peuvent bel et bien perturber les règles et le cycle menstruel des femmes.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir à tous.
Ce que montre cette étude menée auprès de quasiment 4000 femmes aux États-Unis, c'est qu'après un vaccin anti-Covid, le cycle peut être un peu plus long.
Voilà, il se passe quelque chose, mais les médecins sont incapables de dire pourquoi. De nombreuses femmes ont rapporté des cas de règles plus longues, effectivement, des retards, des saignements plus abondants. Certaines femmes ménopausées ont même eu à nouveau leurs règles après la vaccination. Alors cette étude américaine confirme un lien possible, mais elle est plutôt rassurante. Elle conclut que le cycle des femmes est rallongé de moins d'une journée en moyenne et que tout redevient normal rapidement.
Alors ça, c'est cette étude qui a été faite aux États-Unis. Est-ce qu'en France, les conséquences du vaccin sur les règles, c'est un sujet que l'on suit, que l'on étudie ?
Oui, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé parmi les effets indésirables du vaccin, donc signalés par les médecins et par les patients, 4300 cas de perturbation du cycle après une dose de Pfizer ou de Moderna, sans pouvoir prouver là encore de lien direct. Alors il pourrait s'agir d'une conséquence plutôt de la réaction immunitaire causée par le vaccin ou du stress causé par la crainte de la maladie. 4300 cas, c'est sans doute beaucoup plus, car une femme qui a des règles anormales une fois ne le signale pas forcément. Les scientifiques vont continuer de chercher, mais ils se veulent rassurants. Et si ces perturbations durent, disent-ils, il faut consulter son gynécologue, car il s'agit peut-être d'un autre problème.
Voilà, et ne pas hésiter donc à en parler. Merci Virginie Garin. Concernant la vaccination, nouvelle précision qui devrait permettre d'alléger un peu la pression sur les laboratoires. Un test PCR n'est plus obligatoire pour confirmer le résultat d'un test antigénique positif. En revanche, la confirmation avec PCR ou antigénique reste nécessaire après un autotest positif.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec la mort du premier grand acteur noir américain Sidney Poitier qui s'est éteint à l'âge de 94 ans. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. Il a été un pionnier du cinéma américain, le premier noir à obtenir des rôles de premier plan à Hollywood. L'acteur Sidney Poitier est mort aujourd'hui à l'âge de 94 ans.
Bonsoir Stéphane Boutsock.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le spécialiste cinéma ici à RTL. Sidney Poitier est devenu vedette dans une Amérique minée par la ségrégation. Il a d'ailleurs été le premier noir à être récompensé par un Oscar.
Ouais, vous ne savez, on ne s'en rend pas forcément compte. compte vu d'ici, mais c'est un immense symbole du combat des Afro-Américains aux États-Unis qui vient de s'éteindre, et avec lui une figure du Hollywood des années 50 et 60. Sidney Poitier avait reçu en effet la précieuse statuette dorée en 64 pour son rôle dans Le Lys des champs, et il était le premier noir à être ainsi honoré. Sa filmographie est riche d'une cinquantaine de films, dont certains ont largement franchi l'Atlantique, comme La chaîne avec Tony Curtis en 58, Dans la chaleur de la nuit avec Rod Steiger en 67, même année pour Devine qui vient dîner avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Ce descendant d'esclaves d'une plantation des Bahamas s'était vu décerner, en effet, vous le disiez, en 2009, des mains de Barack Obama, la prestigieuse médaille de la liberté, sorte de passage de témoin entre deux icônes de l'avancée des mentalités dans un pays où il reste quand même pas mal de choses à faire encore.
Ouais, une vie de combat donc et de cinéma. Sidney Poitier décédé à 94 ans. Stéphane Boutsock, merci. Aux États-Unis, grosse tempête de neige dans le nord-est du pays, jusqu'à 30 cm par endroit. Près de 800 vols ont d'ores et déjà été annulés dans les aéroports de la région. Au Royaume-Uni, la libération de Benjamin Mendy, accusé de 7 viols et d'une agression sexuelle sur 5 femmes entre octobre 2020 et août 2021.
Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Avant son procès cet été, après 5 mois de prison, le champion du monde français de foot a donc été libéré sous contrôle judiciaire.
Oui, c'est la quatrième fois que Benjamin Mendy demandait à être libéré jusqu'à son procès. C'est parce qu'il avait rompu une première fois son contrôle judiciaire en organisant une fête chez lui qu'il avait été envoyé en prison en août dernier. Le juge aujourd'hui lui a donc finalement accordé une libération sous caution et sous conditions strictes. Le footballeur doit rester à son domicile dans la ville de Presbury, au nord de l'Angleterre. Il doit déposer son passeport auprès des autorités et il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les plaignantes. À toutes ces conditions, Benjamin Mendy a, selon la BBC, répondu par un simple OK lors de l'audience cet après-midi. L'international de 27 ans doit à nouveau comparaître devant la cour de Chester le 24 janvier prochain. C'est là qu'il dévoilera s'il plaide coupable ou non. Il a été averti qu'un mandat d'arrêt sera émis contre lui s'il ne se présente pas à cette audience.
Marie Billon à Londres pour RTL.
À l'étranger toujours, cette autorisation du président kazakh aux forces de sécurité, désormais renforcées par des troupes russes, elles pourront tirer pour tuer face aux manifestants qui dénoncent depuis plusieurs jours l'augmentation des prix du gaz.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec cette année qui commence bien dans une petite commune du Nord, Colleret, un peu plus de 1600 habitants près de Maubeuge, figurez-vous qu'une habitante récemment décédée a fait du village en quelque sorte son héritier, des maisons, des terrains, de l'argent donné à la commune, et il y en aurait pour plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ah oui.
Dans la Voix du Nord, le maire envisage de nommer une commission pour décider de ce qui pourra être fait de cet argent. Ça devrait quand même laisser voir venir.
Effectivement, jolie histoire. Merci Marion, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure. Le temps maintenant, Valérie, alors vous nous avez prédit un week-end dantesque.
Oui, et je ne mens jamais. Donc...
oui, ça reste à vérifier.
Non, non.
Mais là, en l'occurrence, a priori, on ne peut pas vous donner tort.
Oui, on a une dégradation qui a déjà abordé un bon quart nord-ouest ce soir, qui va traverser le pays dans les prochaines 24 heures. C'est cette dégradation qui va donner de la neige dans le Grand Est la nuit prochaine. Deux départements sont d'ailleurs en vigilance orange, neige, verglas, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. On attend jusqu'à 10 cm de neige en pleine, donc au cours de la nuit. Cette dégradation va rapidement aller vers l'est et vers le sud et sera suivie par une autre nettement plus féroce qui arrivera à la mi-journée à nouveau par le nord-ouest avec de fortes pluies, de fortes rafales de vent jusqu'à 100-110 km/h près des côtes, 80-90 dans les terres. Il n'y a que le sud-est vraiment tout près de la Méditerranée où il restera encore un petit peu de soleil demain, température stable heureusement, 4 à Besançon, 7 à Montélimar, 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à La Rochelle et 13 à Montpellier.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, la brigade s'interroge. Est-ce que le Dakar doit s'arrêter? La question se pose pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui réagit après l'explosion d'une voiture sur la course automobile. C'était il y a 8 jours en Arabie Saoudite. Un pilote français, Philippe Boutron, a été grièvement blessé. Alors maintenant, suspension ou non, on va poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir.
Déjà, qu'est-ce qui pousse le gouvernement à changer de ton?
Eh bien, la très forte probabilité qu'il soit question d'un acte terroriste et non pas d'un accident, comme l'ont affirmé sur le coup les autorités saoudiennes. Les témoignages des autres passagers laissent peu de chance au doute, de place au doute. L'affaire a été confiée d'ailleurs au parquet national antiterroriste. Le député du Loiret, Jean-Pierre Sueur, a lui-même encouragé ces investigations. C'est un proche du pilote blessé, Philippe Boutron, qui est aussi le président du club de football de l'US Orléans.
Il apparaît assez difficile de croire qu'il s'agit d'un accident, comme le disent les autorités saoudiennes. Je sais que Jean-Yves Le Drian s'est posé la question de l'arrêt ou du report de la course. C'est vrai que quand une course commence par un acte terroriste, ça demande qu'au moins on soit extrêmement prudent et vigilant.
Mais il va s'arrêter alors ce Dakar 2022 ?
Eh bien ce soir à Riyad, au terme de la sixième étape, la question n'est pas d'actualité. Le directeur de l'épreuve, David Castera.
La date d'aujourd'hui, elle ne se pose pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires. La vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 30 ? Et c'est à celle-là qu'on doit répondre aujourd'hui, d'ailleurs pour la famille de Philippe, pour Philippe lui-même. Et aujourd'hui, nous avons mis en place beaucoup de mesures de sécurité supplémentaires grâce aux autorités saoudiennes, autour du bivouac, sur les départs, les arrivées, pour garder en tout cas une sécurité optimale.
Et les concurrents alors, Jean-Michel, ils vivent comment cette épreuve depuis l'explosion ?
Eh bien, ils font entièrement confiance à l'organisation, à l'image du motard auvergnat Xavier de Soultrey, qui dispute son 9e Dakar. Il est interrogé par Antoine Grenapin.
La sécurité est hyper renforcée. On aime tellement tous le Dakar ici qu'on ne veut pas entendre parler d'un arrêt du Dakar, quoi.
Est-ce que tu as changé ta façon de faire ou pas du tout ? Est-ce qu'on y pense, quoi ?
Eh ben, un petit gilet pare-balles quand même le matin, pour être sûr. Non, on n'est pas du tout inquiet. Et puis les populations ici sont super sympas. Et on pense pas du tout à ça.
L'ivresse des dunes ou lorsque la passion l'emporte sur le danger, encore que la menace ne soit pas clairement établie, aucune revendication n'a été formulée. Pour l'instant.
La brigade RTL dans les roues du Dakar ce soir. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Petite pause et ensuite sur RTL, la parole à une population qui se sent oubliée face à la vague Omicron. Les immunodéprimés, ils représentent jusqu'à 30% des personnes en réanimation. Ils vivent parfois coupés du monde par peur du Covid. Une patiente, un chef de service à l'hôpital, un président d'association seront avec nous juste après ça. Des associations qui interpellent Emmanuel Macron. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, 18h, 19 minutes, bonne fin de journée. RTL à vos côtés et RTL ce soir aux côtés des oubliés peut-être de cette déferlante Omicron, les immunodéprimés. Moins de 300 000 personnes en France, mais jusqu'à 30% des passages en réanimation dans certains hôpitaux. Une surreprésentation terrible. Ces malades sous traitement, ces malades du cancer, ces transplantés, ces personnes fragiles qui vivent depuis 2 ans, parfois cloîtrées pour se protéger face au Covid. 6 associations ont publié une tribune et lance un appel à l'aide à Emmanuel Macron. Pour en discuter avec nous, 3 invités ce soir. Tout d'abord, Najat, maman de 3 enfants atteinte d'un lymphome. Bonsoir Najat, merci d'être avec nous.
Bonsoir à tous.
Guy Bouguet, président de l'association Élie France Lymphome Espoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Najat, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien depuis le début de cette pandémie, notamment en ce moment, vous êtes coupé du monde, c'est ça en quelque sorte, pour vous protéger ?
Alors, pas totalement coupé du monde, mais j'ai eu mon lymphome, on va dire, tout au début, en même temps que le Covid. Donc, tout à l'heure, vous disiez coupé du monde. Oui, coupé du monde pendant tous les traitements, ça a été très compliqué. Les traitements, ils sont assez lourds et voilà, coupé de la famille, de pas mal de choses. Et puis, on est toujours à faire attention, quoi.
Vous dites « on » parce que vous avez 3 enfants, un compagnon. Oui. Est-ce que toute la famille joue le jeu pour créer un cordon sanitaire autour de vous ?
C'est pas que jouer le jeu. Tout le monde fait, c'est pas un jeu. Tout le monde fait vraiment attention parce que c'est compliqué pour tous, quoi.
Ça veut dire télétravail, école à la maison, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Bon, on imagine que c'est long. Au bout de 2 ans, Najat, comme beaucoup d'immunodéprimés, vous êtes évidemment vacciné. Il y a des triples vaccinés, des quadruples vaccinés même. Jean-Daniel Lelièvre, vous, le chef de service à l'hôpital de Créteil, vous vous occupez notamment de maladies immunodéprimées dans cet hôpital. Il faut préciser aux auditeurs que la vaccination, malheureusement, fonctionne mal sur ces patients, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend du degré d'immunosuppression. Il y a des gens qui sont très immunodéprimés avec des vaccins qui ne marchent pas du tout. Et puis, des gens qui sont un peu moins immunodéprimés et où, après 3 ou 4 vaccinations, comme vous l'avez dit, on peut espérer un certain degré quand même de protection.
Et quand des patients immunodéprimés sont contaminés par le Covid, les chiffres sont assez affolants. On parle d'un risque de 15 à 20% de décès, c'est ça ?
Tout à fait, et c'est ce que malheureusement nous avons vécu dans l'hôpital qui est le mien au tout début de la pandémie, avec les patients qui étaient transplantés rénales. Moi j'ai un service qui est très proche de celui des transplantés rénaux, des patients en hémodialyse qui malheureusement ont payé très très cher les premières phases de cette maladie.
Alors où le confinement et le couvre-feu sont devenus des mots presque tabous aujourd'hui, est-ce que les immunodéprimés sont un peu les sacrifiés de cette nouvelle vague sans réelle restriction? Guy Bouguet, vous le président de l'association Élie France Lymphome Espoir, est-ce que c'est votre sentiment?
Oui, tout à fait. On a l'impression, comme le disait Najad tout à l'heure, c'est que les patients immunodéprimés, pour lesquels aujourd'hui, il faut rappeler, il n'y a pas de solution de prévention. Hein. On l'entend bien, les vaccins ne fonctionnent pas à multidose. Donc le patient est obligé de s'auto-confiner ou de prendre des précautions immenses pour ne pas attraper le virus. Et tout ce qu'on voudrait, nous, par ce collectif, c'est d'interpeller le président, d'interpeller les décideurs sur le fait qu'il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent être mises en place pour faciliter aussi la vie de ces patients qui sont immunodéprimés. On le sait, les traitements actuels qui sont curatifs ne fonctionnent pas, les traitements préventifs pour la plupart aujourd'hui ne fonctionnent pas, en attendant l'arrivée de prochains médicaments. Ouais. Nous, ce qu'on milite pour, c'est l'accès à des masques de protection FFP2 pour ces patients immunodéprimés, afin qu'ils diminuent leur risque d'exposition au virus.
Vous l'avez dit, on attend des traitements préventifs pour booster les anticorps qui fonctionnent. Il y en avait qui fonctionnaient, mais Omicron a changé la donne. La Haute Autorité de Santé tient en autorisant le sotrovimab qui resterait, lui, efficace à l'instant. Il faut les systématiser, ces traitements, qu'ils ne dorment pas dans les placards des hôpitaux.
Alors, c'est effectivement une des problématiques que nous avions soulignées lors de notre lettre à Monsieur Macron ce week-end. Et les autorités ont été assez rapides à réagir justement.
Ouais. Pour faciliter... Il vous a répondu d'ailleurs, le président de la République?
Non, il ne nous a pas répondu, mais la DGS a fait une publication le lendemain pour informer les médecins et surtout pour autoriser la mise en place de l'utilisation de ces anticorps au domicile. Donc ça, c'est un pas assez important en avant. Mais effectivement, ça ne suffit pas, comme on le disait tout à l'heure. Certains médicaments qui fonctionnaient sur le variant Delta ne fonctionnent plus le variant Omicron. Mais la bonne nouvelle ce soir, effectivement, c'est le sotrovimab qui est autorisé.
Ouais. Najat, quel est votre ressenti, vous? Est-ce que vous vous sentez un petit peu oublié, sacrifié, alors que le virus circule énormément aujourd'hui et qu'il n'y a plus de mesures de restriction comme on a pu en connaître lors des précédentes vagues?
C'est oublié, enfin sacrifié, non, je ne me sens pas sacrifié. Oublié, oui, mais après, c'est vrai que on est obligé de faire attention. C'est surtout ça. Et puis, c'est aussi une pression pour les enfants. Ils vont à l'école, c'est très bien, heureusement. Mais voilà, ils sont quand même toujours paniqués. Ils rentrent à la maison, c'est les gestes barrières, ils font attention. Voilà quoi.
Oui, ça veut dire que vos enfants aujourd'hui
ont toujours un stress au quotidien.
Une culpabilité quelque part au quotidien. Ça doit être très difficile à vivre. Jean-Daniel Lelièvre, on sait que l'hôpital est épuisé, que le pic Omicron va menacer d'ici la fin du mois vos services une nouvelle fois. Est-ce que ça veut dire pour ces patients immunodéprimés un parcours de soins, des traitements pour soigner leur maladie qui risque d'être une nouvelle fois bouleversé, décalé, reporté?
On n'espère pas. Ce que je voudrais dire, c'est que cette population n'est pas oubliée. C'est une préoccupation majeure pour les médecins, et notamment les médecins hospitaliers. Moi, je suis dans un grand hôpital parisien, et dans tous ces grands hôpitaux, ces populations représentent 30 à 50% des patients qui sont pris en charge. Vous citiez 300 000 personnes immunodéprimées en France. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. Donc c'est une préoccupation quotidienne. Et dans les hôpitaux, on renforce tous les moyens justement pour éviter la contamination de ces patients-là qui sont on crée un cordon sanitaire, et c'est pour ça aussi qu'il faut continuer à appeler les gens qui ne se vaccinent pas en France pour se vacciner, parce qu'il y a cet effet de protection de groupe, et cette protection de groupe, on veut l'avoir justement pour ces gens-là, pour les gens qui sont immunodéprimés, qui eux ne peuvent pas se protéger avec le vaccin.
C'est vrai que la majorité des patients en réanimation aujourd'hui est non vaccinés. Najat, est-ce qu'il y a une colère envers cette population qui surcharge les hôpitaux et qui de facto fragilise les immunodéprimés?
Une colère, non, mais j'appelle les gens à la raison, tout simplement, quoi. Voilà, c'est d'appeler les gens à la raison. Et puis, il n'y a pas que le Covid, il y a aussi d'autres personnes qui sont malades et qui ont besoin de ces lits, quoi. Voilà, donc c'est plus l'appel à une unité collective, quoi. Voilà.
Guy Bouguet, vous, est-ce qu'il y a un ressenti envers les non-vaccinés aujourd'hui ou est-ce que quelque part vous appelez vous aussi à la raison, ou est-ce qu'il y a une colère froide qui est en train de monter?
Enfin non, je pense qu'il n'y a pas de colère froide. Hein. On est quand même dans un système qui a été extrêmement généreux. Moi, j'appelle chacun à prendre ses responsabilités pour que ce système puisse perdurer.
Mais à penser à vous.
Absolument.
Merci Guy Bouguet, président de Eli France, l'Infome Espoir. Merci Najat d'avoir témoigné ce soir sur RTL, de nous avoir raconté un bout de votre quotidien. On pense à vos enfants ce soir, on sait que ça doit être difficile effectivement pour eux de ce que vous nous racontez. Continuez, tenez le coup, et merci beaucoup à vous Jean-Daniel Lelièvre, chef de service.
Et mon mari.
Et à votre mari aussi, effectivement.
Ouais.
Tenez le coup tous ensemble. Merci Jean-Daniel Lelièvre, chef de service à l'hôpital Mondor de Créteil, d'avoir été ce soir avec nous sur RTL. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir expliqué vos craintes, d'avoir aussi allumé la lumière, et c'est important, sur cette population immunodéprimée qui redoute aujourd'hui cette déferlante Omicron. On va marquer une petite pause dans RTL Soir et ensuite dans les dessous de l'actu, les dessous de Bordeaux-Marseille. Match de foot, grosse rivalité ce soir, mais match de la discorde parce que les Girondins n'ont pas été épargnés par le virus. Et puis dans Laissez-vous tenter dernière, on va vous emmener dans une librairie et on va se demander quel accueil est réservé au nouveau Houellebecq qui est sorti aujourd'hui.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et il est grand temps de vous rappeler maintenant les titres de l'actualité. Marion Calais, on vous écoute.
Et ce sont désormais la plupart des syndicats enseignants qui appellent à la grève jeudi prochain, 13 janvier. Ils dénoncent la pagaille provoquée dans les écoles par le nouveau protocole à grand renfort de tests. Nous ne vous oublions pas, le tweet ce soir d'Emmanuel Macron en ce 7 janvier, 7 ans tout juste après les attaques contre Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher à Paris, attaques qui ont fait 17 morts. Il a été le premier acteur noir américain récompensé par un Oscar. Sidney Poitier est mort aujourd'hui à l'âge de 94 ans.
Merci Marion. Le temps, Valérie, pour demain, pop.
Exactement. Voilà. Pour dimanche, c'est pareil. Comme ça, c'est pratique. On a des dégradations successives qui vont traverser le pays d'ouest en est avec de fortes pluies, de fortes rafales de vent, de la neige en montagne à assez basse altitude, voire en plaine dans le Grand Est pour la nuit prochaine. Donc pour la nuit prochaine, on va surveiller surtout les régions du Grand Est. Et pour la journée de dimanche, on va surveiller les départements bordant les Pyrénées où il va y avoir beaucoup d'eau. Température stable, heureusement. Tout le week-end, 7 degrés à Grenoble, 8 à Colmar, 10 à Limoges et Paris, 11 à Pornic, 12 à Nîmes et Marseille et 14 à Bastia.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous du match de foot de la discorde. Bordeaux, Olympique de Marseille, ce soir, 21h à vivre sur RTL. Évidemment, le match se jouera bien et pourtant 21 cas de Covid chez les Girondins depuis les fêtes. Autant dire que le club a réclamé un report. Mais la Ligue a dit non. Bonsoir Denis Grandjou.
Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous.
Alors vous êtes devant le stade pour RTL où les ultras bordelais s'apprêtent à manifester contre la tenue de la rencontre.
Oui, c'est assez compliqué. Bon, ils se sont un peu déchaînés sur les réseaux sociaux depuis hier, parce que c'est vrai que ce match contre Marseille, c'est le match à ne pas perdre dans l'année. C'est une vieille rivalité. Bordeaux est invaincu depuis 1977. Alors forcément, avec tout ce que vous disiez, Julien, 21 joueurs out, on va dire, avec le Covid, même si ce n'était pas en même temps. En tous les cas, c'est problématique. Et les ultras refusaient que ce match se joue. Ils voulaient qu'il soit reporté. Du coup, ils ont décidé de venir ici, sur le rond-point, juste en face de ce beau stade Matmut Atlantique. Et les forces de l'ordre, pour la première fois, je n'avais jamais vu ça ici, ont installé un canon à eau, peut-être pour éviter que les ultras bloquent, comme ils ont laissé entendre l'arrivée des bus de Marseille ou de Bordeaux.
Denis, expliquez-nous juste comment ce match peut se jouer alors même que les Bordelais sont si décimés.
Alors, le club peut demander le report du match si 20 des 30 joueurs de l'effectif déposés au début de la saison auprès de la Ligue sont touchés par le Covid. Alors c'est vrai, vous l'avez dit Julien, on en dénombre 21, mais pas en même temps. Et du coup, ça c'est ce que ont retenu les instances du foot. Ça s'est passé sur 3 semaines. Alors pour le moment, il n'y a que 8. Les 8 derniers cas qui comptent. Et là, il y a 6 cas chez les Girondins. Donc le match peut se jouer normalement. Rappelons qu'il n'y aura absolument aucun public. si ce n'est les ultras qui se tiennent donc juste devant le stade et qui ont décidé de manifester, mais visiblement pour l'instant pacifiquement, c'est très très calme, peut-être trop calme d'ailleurs.
Du public en dehors du stade, deux équipes avec des malades du Covid. Ce Bordeaux-M s'annonce très particulier, il est à vivre ce soir sur RTL, RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et Xavier Domergue, et avec vous dans les tribunes parce que vous avez le droit de rentrer, cher Denis Grandjoie, tout à l'heure.
C'est terrible, il n'y a personne.
Il y a vous, c'est déjà ça.
Il y a moi, c'est déjà bien, ouais, c'est vrai.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Allez, 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant dans RTL Soir, tous les jours, des idées, des conseils culture pour occuper les soirées et puis occuper le week-end même qui arrive. Pourquoi ne pas se plonger, tiens, dans le dernier Michel Houellebecq, c'est l'événement littérature aujourd'hui, sorti de Anéantir. Tirage à 300 000 exemplaires quand même. Bonsoir Bruno Sayapoum.
Bonsoir.
Vous êtes libraire au Furet du Nord, la grande librairie historique, légendaire de Lille sur la Grand Place. Est-ce qu'on peut parler d'un démarrage en trombe chez vous ?
J'ai comparé avec les chiffres du précédent, sorti il y a 3 ans. Sur la journée de lancement, on avait fait 216 ventes. Et pour l'instant, on en est à 97 à 15h pour situer un peu.
Ouais. Bon, c'est vrai que le contexte sanitaire n'est pas tellement le même. Ces dernières semaines, c'est vrai qu'on a entendu des critiques, alors parfois élogieuses, parfois acerbes. Est-ce que ces critiques, en tout cas, ont suscité une attente ? Est-ce que vos clients vous en ont parlé d'ores et déjà de ce livre ces derniers jours ?
Oui, ça fait déjà quelques semaines. Tous les jours, on nous demande quand sortira du coup son nouveau livre. Tous les jours, on a des demandes, soit de réservation, ou de savoir quand le livre sortait.
Il y a un portrait type du fan Houellebecq, parce qu'il y a des fans Houellebecq.
Justement, c'est ça qui est intéressant en fait avec cet auteur, c'est que ça touche tous les profils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement voilà un lecteur type. Il y a tous les âges, hommes, femmes. Il y a des gens qui lisent beaucoup, des gens qui lisent que Houellebecq. Donc c'est l'un des rares auteurs en fait à avoir un public très très large, avec autant des gens qui disent des choses, enfin des auteurs assez pointus, on va dire, assez littéraires, que comme des personnes voilà qui lisent un ou deux livres par an grand max.
Et alors vous, est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez ?
C'est ça aussi la particularité de ce livre, c'est qu'à ma connaissance, c'est le seul auteur contemporain où on n'a pas eu où on n'a pas accès aux services de presse. Donc ça a aussi rajouté du mystère pour ce titre-là.
Bon, j'imagine que vous avez déjà lu du Houellebecq. Est-ce qu'il faut inciter le lecteur à passer le pas parce que la figure un peu dépressive réactionnaire peut rebuter. D'ailleurs, il paraît qu'il y a son lot d'aigreur dans ce dernier roman. Il faut passer outre, ça vaut le coup.
Moi, je pense que oui. En fait, il faut essayer de passer outre le personnage. En fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de séparer le personnage et l'œuvre. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, même on zappe à la télé, on voit ce personnage un peu qui a l'air un peu sinistre, hein, ça c'est clair, peut-être qu'il en joue aussi. Moi j'ai essayé de feuilleter le livre, c'est clairement dans la continuité de ces deux derniers. Rien que les premiers chapitres, en fait, on est tout de suite dans une ambiance assez pessimiste, assez sombre. Pour le coup, il va pas décevoir ceux qui ont aimé ces derniers ouvrages. Ça c'est clair.
Très bien. En tout cas, c'est l'événement littérature du jour, la sortie d'Anéantir, le dernier Michel Houellebecq. Merci d'en avoir discuté avec nous dans Laissez-vous tenter dernière. Bruno Sayapoum, libraire au Furet du Nord, la grande librairie historique du centre de Lille. Merci d'avoir été avec nous de RTL Soir.
Merci à vous. Bonne soirée.
Et pour aller plus loin, Focus, le podcast quotidien de la rédaction, est consacré au succès, aux ingrédients du succès Houellebecq, podcast mytho. Vous le savez, par Marion Calais qui décidément est sur tous les fronts. Elle est encore là en studio, on n'arrive pas à la faire sortir. Et dans un instant avec Marion, avec vous, on va refaire nos régions comme chaque vendredi, vos 20 minutes positives près de la maison, avec au menu des robots toulousains qui séduisent Vegas, un combat terre contre béton dans la campagne ch'ti, un gâteau unique en Normandie et puis une balade derrière les barreaux, oui, du Mont-Saint-Michel. On se retrouve juste après ça, restez à l'écoute.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.